Bienvenue dans la série spéciale « Développeurs en 2039 ». Mon but est de te faire réfléchir à notre monde d'aujourd'hui en se projetant dans l'avenir. Cette série comporte 20 épisodes que je t'invite à suivre dans l'ordre. Prêt ? C'est parti ! Thierry Crowe a commencé à coder l'année où je suis né. D'avoir la chance de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a vu autant le monde changer et accumuler autant d'expériences alors qu'il est encore actif, je n'ai pas pu résister d'aller l'interroger. Comment ont développé il y a 40 ans? Comment voyait-il le monde dans 20 ou 40 ans? On en parle dans le 20e et dernier épisode de cette série « Développeurs en 2039 ». Alors, avant d'envoyer l'épisode, je tiens à m'excuser de la qualité sonore de l'enregistrement. Comme on dit, on a une belle marge d'amélioration. Et j'espère que tu arriveras à passer outre pour profiter de l'échange. Je te propose maintenant d'écouter mon échange avec Thierry. Aujourd'hui, je suis avec Thierry Crowe. Thierry, bonjour.
Bonjour Benoît, heureux de te retrouver.
Ah ben, plaisir partagé. Okay, on est là aujourd'hui pour enregistrer un épisode dans la série Développeurs en 2039. Et ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, si tu es d'accord, c'est qu'on parle de début de développeurs. Parce que toi, tu as connu l'époque où on codait avec des cartes perforées. C'était il y a quelques années, quoi, une quarantaine d'années, quelque chose comme ça.
C'était, oui, c'est ça, grosso modo, c'était, si tu veux, au tournant fin des années 70, début des années 80, c'est ça.
Et alors, raconte-nous à quoi ça ressemblait le développement aux cartes perforées à cette époque-là.
C'est bon, pour être honnête, c'était quand même un peu la fin des cartes perforées, mais si tu veux, c'est...
Est-ce que toi, tu as déjà fait un programme sur cartes perforées?
Ah ben oui, j'ai fait plusieurs programmes sur cartes perforées, oui. Et le développement, pour répondre à ta question, le développement, ça avait quand même pas grand-chose à voir, parce que ce qu'il faut voir, c'est que les cartes perforées, bon, si tu veux en deux mots, les cartes perforées, d'ailleurs, les cartes perforées, on les avait aussi sur les autoroutes à l'époque, mais le principe était qu'on avait des sortes de machines à écrire, si tu veux, des télétypes qui nous permettaient de créer au fur et à mesure les cartes. Et donc, on écrivait notre programme, quoi, avec un langage qui, finalement, en termes de langage, on avait quand même déjà des langages type 3G, tu vois, Pascal, C, etc.
Ok, donc t'étais pas en assembleur, en fait. Tu tapes les trous, ça correspondait pas directement à tes instructions en assembleur.
Non. On était sur. Enfin, c'est juste que par ailleurs, j'avais fait également de l'assembleur, mais sinon, non. Les cartes perforées, c'était vraiment, enfin, du COBOL, tu vois, enfin, c'était des langages, on va dire, qu'on pouvait qualifier d'évoluer, quoi. Et donc, ce qui était intéressant, enfin, en tout cas, ce qui était particulier, c'était que, grâce à ce télétype, on va dire, on crée notre jeu de cartes. Et donc, tu vois, il faut imaginer qu'on avait des cartes qui étaient en gros du format carte postale, mais un peu plus aplati, un peu plus long, quoi. Et donc, ben, tu avais une instruction, une carte par instruction. Donc, tu vois, dès que tu avais un programme de 150, 200, enfin, un source, en tout cas, de 150 ou 200 lignes, ça te donnait un gros paquet, quand même, de 150 cartes. Et ensuite, ben, ces cartes, nous les mettions dans des bacs appropriés. Et puis, puisque moi, j'étais vraiment côté dev, et donc, il y avait un opérateur côté run, quoi, côté système, qui régulièrement venait récupérer ces cartes et les faisait lire à la machine. Et en gros, bon, ça dépendait évidemment de la charge, etc., etc., mais on va dire 2 heures ou 1 heure, 2 heures, ou le lendemain matin, on avait le résultat de la compilation et éventuellement du run, quoi, de l'exécution.
Ah ouais, il fallait pas trater à l'écriture, quoi.
Voilà, c'est pour ça que, si tu veux, quand on parle de, enfin, comment dire, si tu veux, plus j'avance, plus je me dis que c'est vraiment essentiel de contextualiser les choses. C'est-à-dire que, honnêtement, si tu veux, en clair, on va dire que la grosse conception du début, ou en tout cas à réfléchir vraiment, tu vois, à la façon dont on codait, qu'est-ce qui allait se passer, enfin, franchement, à l'époque, c'était pas du tout déconnant, quoi, parce que, tu vois, chaque fois le cycle, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a commencé à voir apparaître dans les années 80, puis surtout 90, avec, tu sais, les révolutions de type Turbo C++, enfin, tu sais, les environnements sur PC là, qui ont vraiment révolutionné les choses, quoi. Mais donc, il faut voir qu'on était vraiment sur des cycles qui étaient sans comparaison en termes de de cycles de compilation, etc.
Et à cette époque, comment est-ce que vous voyiez le, comment est-ce que vous imaginiez le métier dans l'avenir? Est-ce que seulement vous vous posiez la question de à quoi ça ressemblerait?
Alors, en tout cas, ben, pour ma part, parce que si tu veux, je prétends pas du tout parler au nom de tous les.
De toute une génération.
Bien sûr, voilà, de toute une génération. Mais si tu veux, là aussi, il faut contextualiser, quoi. Les années 80, et en particulier le début des années 80, enfin, si tu veux, honnêtement, c'était une période tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que, bon, sans faire de politique, parce que c'est vraiment pas le sujet, mais c'était le tout début des radios libres. Et quand je dis radio libre, c'est juste pour, pas spécialement pour parler des radios libres, mais juste pour donner un petit peu l'esprit de l'époque. Radio libre, ça veut dire que une asso dans un coin pouvait se doter d'un émetteur et sur une ville, voilà, on s'est retrouvé avec des dizaines de radios libres. Moi, j'étais à Toulouse à l'époque et c'était impressionnant, si tu veux, ces radios qui apparaissaient comme ça du jour au lendemain. Et qui finalement n'ont pas complètement disparu. Mais enfin, si on regarde aujourd'hui la bande FM, elle est quand même plutôt trustée, comme on dit, par des grands groupes et des véritables radios libres comme à l'époque. Ben, il en existe plus de masse. Par exemple, Radio FM à Toulouse.
Et donc, du coup, tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'il y avait un esprit un peu rebelle, un peu foufou?
Oh, rebelle. En tout cas, il y avait vraiment ce qu'on pourrait appeler un vent de liberté, ou c'est vrai, un vent de progrès, de. Tu vois, par exemple, tout à fait au début, il y avait quand même le ministère du temps libre. Je ne sais pas si tu imagines, tu vois, aujourd'hui, avec le chômage, enfin, avec la situation, ministère du temps libre. Quoi. Voilà, donc, tu vois, on était vraiment dans cette. En tout cas, moi, j'étais vraiment dans cette dynamique. Et donc, en clair, pour répondre à ta question, c'est vrai que l'avenir, honnêtement, je ne peux pas dire qu'on y réfléchissait. Ou en tout cas, pour ma part, l'avenir, ce que j'en. Ce dont je me souviens finalement en termes d'impression, c'est que à l'époque, l'avenir, c'était forcément mieux. Tu vois, on était sur des progrès. Tu vois, il y avait par exemple les Walkman qui apparaissaient après. Donc tout ça, ça paraît complètement désuet aujourd'hui. Mais tout un tas de nouveautés qui apparaissaient, qui finalement, petit à petit, nous facilitaient la vie ou nous changeaient la vie. Tu vois, par exemple, de se balader avec un petit machin, un petit lecteur de cassette dans la poche et pouvoir écouter de la musique, ce qu'on fait aujourd'hui avec un smartphone, évidemment. Voilà, tout ça, c'était quand même très, 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 très nouveau à l'époque.
Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, le futur était de toute façon synonyme de progrès, quoi.
Exact, oui, voilà.
C'est d'amélioration, hein. C'était pas forcément le côté anxiogène qu'il peut y avoir aujourd'hui.
Non, honnêtement, pas du tout. En fait, c'était que ce soit au niveau, je dirais, sociétal ou en tout cas, même au niveau technique, parce que. Ensuite, quand j'ai commencé à bosser, à ce moment-là, après les cartes perforées, il y a quand même les fameuses stations qui fonctionnaient plutôt sur système Unix, et que ce soit à l'époque les Sun, les HP, les Silicon Graphics, c'était des machines de fou, quoi, tu vois, avec un super écran, enfin un super système. Voilà, et donc quand on sortait des grosses bécanes genre mainframe, IBM, etc., c'était quand même un peu le bonheur aussi. Et donc voilà, même au niveau technique, c'était vraiment quand même de sacrées avancées avec du coup quand même les premières interfaces graphiques qui apparaissaient à ce moment-là, enfin, fin des années 70, parce que c'est là qu'il y a MS-DOS qui apparaît, un peu plus tard Apple. Et donc voilà, on était vraiment dans cette mouvance. Mais enfin, moi, quand je commençais à bosser, bon, sans parler de cartes perforées, mais ensuite, c'était juste même des ce qu'on appelait des terminaux passifs, tu vois, c'est-à-dire juste un écran, un clavier qui est relié par une ligne, une série ou quelque chose comme ça à un central, et donc avec absolument aucune intelligence localisée, quoi. Et donc, quand on a vu apparaître toutes ces bécanes, ces mini, ce qu'on appelait des mini, finalement, là aussi, ça donnait quand même, tu vois, une liberté, ou en tout cas une très très forte sensation de progrès, quoi.
Et quelles ont été, pour toi, sur ces 40 dernières années, quelles ont été les évolutions que tu as pu voir dans le métier qui ont été les plus impactantes, les plus fortes, les plus déterminantes, en fait?
Alors, à mon humble avis, l'évolution, elle porte justement sur quand même ces matériels, si tu veux. C'est-à-dire que au départ, il faut voir que ces stations dont on parlait, ça coûtait, enfin, entre nous, ça coûtait quand même la peau des fesses, quoi. Enfin, c'était vraiment.
Oui, ça coûtait une blinde.
Professionnel, voilà, ça coûtait très cher et c'était évidemment très performant, etc. C'était vraiment de très très belles bécanes. Mais je pense qu'il y a eu deux révolutions, mais qui, pour la petite histoire, c'est pas que je sois que je sois obnubilé par XP, mais c'est aussi des choses qui expliquent l'avènement, l'apparition de XP dans les années 90. Premièrement, justement, les PC qui, au fur et à mesure de l'évolution des processeurs, donc la gamme Intel avec des 286, 386, etc., et également au fur et à mesure de l'évolution des environnements de dev, donc avec, moi je me souviens en particulier des environnements Borland là, de ces années 80 puis 90 surtout. Et je pense que ça a été une sacrée révolution avec des cycles de développement, en tout cas au niveau programmation, des cycles évidemment infiniment plus rapides, avec même après presque ce qu'on pourrait appeler une compilation à la volée, ou en tout cas une détection d'erreurs de syntaxe à la volée, ce qui fait que effectivement après il était tout à fait naturel de trop se casser la tête avec les points virgules en fin d'instruction, quoi, tu vois.
C'est clair. Et dans les si tu imagines le métier dans les années qui arrivent, d'ici à 20 ans, qu'est-ce que tu imagines qui peut être de nature à impacter? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir comme innovations qui peuvent radicalement changer notre métier?
Alors, si tu veux bien, j'aimerais là aussi quand même revenir juste un petit peu en arrière pour expliquer ce que je peux imaginer de façon très peut-être utopique, mais justement tout à l'heure on évoquait soit des langages, ce qu'on appelle langage troisième génération, c'était vraiment en relation ou en tout cas en fort changement avec les premières générations qui étaient des assembleurs, et on parlait donc de ce qu'on appelle le fossé sémantique, c'est-à-dire que effectivement une nuance importante entre un assembleur et un langage type des langages actuels, Java, etc., c'est qu'un assembleur, le type d'un paramètre, on va dire, d'une donnée, s'établissait au niveau de l'instruction elle-même, au niveau de, tu avais le add entier, puis le add flottant. Et les mots mémoire, eux, étaient banalisés, on réservait juste un mot mémoire. Alors que dans les langages dits évolués, avec le C, etc., évidemment, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte, ce qu'on pourrait appeler du coup la surcharge d'opérateurs. C'est-à-dire que le plus, que ce soit le plus entier ou flottant, c'est toujours le même signe plus. Et par contre, c'est lors de la déclaration ou définition de la variable qu'on va dire c'est un entier, c'est un flottant, etc. Et donc, si tu veux, du coup, pour répondre à ta question, je la traduis un petit peu en termes de quel pourrait être le prochain fossé sémantique en termes de développement, quoi. Et alors en fait là je repense en fait à une autre période qui était la fin des années 90 avec l'apparition là du langage UML, qui était une sorte de synthèse de différents langages, Grady Bush, Jacobson avait le use case, et UML, UML aura eu le succès qu'on connaît, et puis les limites qu'on connaît aussi, c'est jamais qu'un langage et ça fait pas tout quand même, quoi. Mais enfin, je dis ça parce qu'à l'époque, UML, c'était un petit peu, la silver bullet, quoi. C'était vraiment le truc magique qui allait tout résoudre en informatique.
Ouais, moi je me rappelle, on devait à un moment donné ne plus mettre les mains dans le code. La promesse était on va tout designer, puis il y aura des trucs qui vont générer le code automatiquement.
C'est ça.
Avec des doubles synchronisations et. Et on se réservait sur les activités nobles de conception et on laissait le codage, l'encodage aux machines, quoi.
Oui, voilà, mais ça, c'est vraiment très intéressant comme réflexion parce que c'est déjà ce qui se passe en réalité d'une certaine manière. On pourrait dire que lorsque j'écris un programme aujourd'hui en C++, en C#, en Java, etc., d'une certaine manière, je laisse finalement au compilo ou à l'interpréteur le soin, tu vois, de traduire tout ça en langage bécane, etc. Donc en réalité, ce phénomène, il existe déjà finalement. Et effectivement, à l'époque, on avait un petit peu je ne sais pas si c'était une utopie, mais en tout cas, l'idée en clair, et là on rejoint un petit peu quand même cette question de fossé sémantique, l'idée c'était qu'en clair, le modèle lui-même pouvait devenir le code, quoi. Et donc je me souviens par exemple de Pierre-Alain Muller, qui était l'auteur des livres qui avait vraiment vulgarisé et popularisé UML, la fin des années 90, qui avait développé, je crois qu'il a appelé ça le prototype, où en tout cas on pouvait, tu vois, justement en termes d'UML, on définissait des classes et ce prototypeur permettait de créer et de gérer et de voir un peu ce que donnait de cardinalité des associations, etc., etc. Et donc, pour répondre à ta question sur le futur, ce que je constate quand même quand je travaille, pour être honnête, aujourd'hui je développe plus beaucoup, mais je travaille toujours très près des développeurs, et donc je constate qu'on est toujours quand même sur du scripting en réalité pour la plupart du temps. Et donc je pourrais imaginer une évolution qui est que effectivement, de la même façon qu'à l'époque nous étions passés d'assembleur à langage troisième génération, on va dire, bon, sachant que de temps en temps on fait encore de l'assembleur dans certains cas, mais bon, on pourrait imaginer que aujourd'hui, on passe de ces langages 3G scripting à des langages de type graphique modélisation. Je ne sais pas, sinon je ne vois pas vraiment, tu vois, en termes d'évolution significative comme ça, il y en aura certainement d'autres, hein, que peut-être on n'imagine pas aujourd'hui.
Donc on gagnerait un niveau d'abstraction supplémentaire sur le langage.
Exactement, on peut tout à fait le voir en termes d'abstraction.
Mais quelque part, c'est un petit peu ce qui se passe déjà, en fait. Si tu regardes bien, ça, c'est une croyance que j'ai, c'est que parmi les compétences qu'on va avoir dans le futur, tout le monde sera de près ou de loin amené à programmer. Mm-hmm. Mais il faut s'entendre sur ce que veut dire programmer. Pour moi, programmer, c'est traduire une intention et faire à une machine quelque chose que tu veux faire. Et quand je vois, par exemple, là, j'utilise des outils, par exemple, de campagne marketing, mm-hmm. Où tu peux programmer, en fait. Tu as des interfaces graphiques où tu fais des connexions, où tu fais des ifs. Bon, bah, s'il y a telle condition qui est remplie, tu envoies tel email. Tu as des boucles. Si au bout de tant de temps, cette personne n'a pas répondu, tu envoies tel autre email. Tu vois vraiment des chemins graphiques. Enfin, tu vois vraiment des chemins comme on pourrait représenter un cheminement dans un code, quoi. Et on pourrait presque représenter une stack trace à un instant donné. Et je me dis, ça, c'est de la programmation, ça, en fait.
Ben oui, tu as complètement raison. En fait, je pense que sur des sujets, des domaines particuliers bien câblés, effectivement, on en est déjà là, oui, effectivement. Oui.
Donc, on pourrait imaginer d'extrapoler ça encore plus loin. Ça me fait penser à un truc que dit Canbeck. Je crois que Canbeck, je l'avais lu dire, je ne sais plus quoi, lequel des deux, s'intéressait beaucoup, justement, à la conception par arbre et aux représentations graphiques des programmes. Mmh. C'est peut-être ça, ça sera peut-être peut-être que dans 10 ans, on ne programmera plus en écrivant du code, mais
en dessinant. Voilà. Voilà. Et alors du coup, la question qui se posera, c'est quid du TDD pour un code qui est un modèle graphique, en fait.
Bah, c'est une bonne question, mais en même temps, tu vois, je me dis, quand on se replonge comme ça dans le passé, ce que je trouve passionnant en faisant un petit peu d'histoire de notre métier, c'est qu'on se rend compte à quel point on est héritier de choses qui avaient du sens à un instant donné, mais qui n'en ont plus forcément parce que le contexte a fortement changé.
C'est ça.
Et si ça se trouve, dans 10 ans, on ne fera peut-être plus de TDD parce qu'en fait, ça ne fera plus de sens, quoi.
Oui, j'ai du mal à y croire, mais bon, admettons, oui, bien sûr.
Non, mais imaginons qu'on soit passé à un nouveau style de génération de la même manière qu'à l'époque, ça faisait beaucoup de sens de s'intéresser au point-virgule. Et de faire super gaffe à ta syntaxe parce que tu n'avais pas de linter et que si tu te plantais, c'était quand même dommage de griller une journée pour une bêtise de grammaire. Peut-être que dans 20 ans, en fait, ces enjeux-là de maintenabilité du code seront plus un sujet et on se concentrera sur des niveaux d'abstraction supérieurs, tu vois.
Exactement, oui. Si tu veux bien, je pense qu'il y a une autre facette qui rejoint l'agile. Qui est que là, on voit la programmation vraiment en tant qu'activité presque technique, je dirais. Je crois que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui et qui peut peut-être du coup présager de notre avenir, c'est que quand même, petit à petit, au travers, on va dire, de l'avènement de l'agile et puis aujourd'hui de cadres type SAFe, par exemple, qui embarquent quand même d'une certaine manière les organisations dans cette prise de conscience qu'il faut quand même développer autrement, peut-être quand même que une autre évolution ne sera pas simplement technique, mais en termes de, si tu veux, en clair, pour le dire vite, de relation entre l'activité vraiment de programmation, je dirais de dev, quoi, au sens conception, dev, test, etc., cette activité de dev, mais dans un cadre plus large qui est ben, justement ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire répondre à une intention, à un besoin, etc. Et je crois quand même que cette évolution, à mon humble avis, elle est juste en train de se faire vraiment maintenant, quoi. Parce que là, quand même, pendant pas mal d'années, on pourrait presque dire des années 90 jusqu'à aujourd'hui. En tant que développeur, évidemment, on développait sur ces boucles. Enfin, on n'était pas complètement idiot, donc on profitait de ces environnements qui permettent, qui donnent des temps de dev beaucoup plus rapides. Mais en attendant, on restait quand même dans un gros cycle en boucle qui, c'est un petit peu ce que je disais lui tout à l'heure, en réalité, avec un du sens à l'époque, et n'en a plus vraiment aujourd'hui parce que, justement, on a à disposition ces machines et ces environnements de dev. Et donc, je pense qu'il y a une évolution quand même qui est en train de démarrer sérieusement là sur l'intégration, en quelque sorte, du développement dans le cadre plus général qui est quand même d'informatiser les process métiers, etc., etc.
Eh bien, écoute, Thierry, on a littéralement défoncé la boîte de temps qu'on avait prévue, mais c'était passionnant. Je te remercie d'être venu aujourd'hui.
Ok, ben écoute, merci. Merci à toi.
Merci Thierry pour ta contribution. À bientôt.
Ok, à bientôt, oui. Au revoir.
Ouais. Un épisode vraiment super intéressant. Intéressant de voir que finalement, il y a 40 ans, l'avenir était largement dégagé et radieux. On est loin des gros nuages gris qui assombrissent le futur. C'est tellement léger qu'on n'y pensait pas plus que ça en fait. Et en même temps, super intéressant de voir aussi comment l'évolution technologique a permis l'émergence de nouvelles méthodes de travail et y a profondément impacté notre métier. Tu te vois, toi, faire du TDD avec des cartes perforées qui build en 24 heures ? Ben moi non plus. Du coup, là oui, l'anticipation prend une place super importante. Mais quand tu peux itérer super vite, est-ce toujours autant nécessaire ? Est-ce que les pratiques qu'on a développées sur les paradigmes anciens sont toujours valables quand les paradigmes de base et les sous-jacents changent ? Et du coup, quelles seront les évolutions structurelles fortes des années à venir ? Non, parce que les frameworks JS, c'est cool, mais c'est pas vraiment une révolution, les gars. Bon, en attendant que le TDD soit has-been, viens te former. Rejoins-nous dans la Maison des Compagnons sur maison.artisandeveloppeur.fr. Et avant de te laisser avec le dernier épisode de la fiction, je voulais te dire ceci. Ce que je trouve fascinant avec l'époque dans laquelle on vit, c'est qu'on ne sait vraiment pas de quoi demain sera fait. On est à l'aube de changements. Je pense que tu le sens de manière plus ou moins intuitive. En fait, nombre de ces changements ont déjà commencé à s'opérer. Et le constat scientifique, en tout cas au moins sur le plan climatique, est assez clair. Le climat, ça va être chaud. Et les ressources énergétiques vont baisser. Et les impacts sur nos vies deviennent de plus en plus concrets tous les jours, alors qu'on en est juste à la mise en bouche. Et on ne sait vraiment pas où ça va. Le spectre de possibilités va de 10 milliards d'individus sur Terre à l'extinction de l'humanité. Et tu sais ce qui est dingue ? Ce défi, c'est pour nous, pas nos enfants. Nos petits-enfants, nous. On sait juste que de grands changements se préparent et que les choses bougeront de gré ou de force. Et visiblement, comme on ne change rien ou pas grand-chose à nos modes de vie, ça risque d'être de force. Malgré tout, l'avenir reste encore très ouverte. C'est pour ça que j'ai voulu une fin ouverte à la fiction, quitte à ce qu'elle soit peut-être un peu frustrante, parce que tout est possible. Alors sans plus de transition, voici le dernier épisode de la fiction, développeur en 2039.
La fouine, on est en place. On commence le travail.
Reçu. On attend.
Hey, ça va ? Comment tu te sens ?
Putain, il m'a bien amoché ce connard de garde. T'arrives à te brancher ?
Attends, j'y suis presque.
Ça y est, je suis dans le système. À toi de jouer.
C'est parti. C'est bon.
La fouine, on est bon. Grand-mère fait dodo. Vous pouvez y aller.
On y va.
Bon, mission accomplie. Allez, on se casse.
Vas-y, je te rejoins.
Mais qu'est-ce que tu fous ?
J'ai un vieux compte à régler.
Putain, Benjamin ! Faut y aller ! À quoi tu joues, là, bordel ?
Détends-toi, tout va bien. Attends encore une minute, et j'aurai effacé cet enfoiré d'Orthez et sa bande de merde.
Mais qu'est-ce que tu racontes ?
J'ai programmé un petit patch rien que pour eux.
Pourquoi pas tous les effacer pendant qu'on y est ?
Tu veux dire effacer tout Atlantis ?
C'est tentant, non ?
Ouais, c'est vrai, mais est-ce que c'est à nous de les sortir de la matrice ? J'ai pas envie que tout s'effondre et que tout le monde souffre. Ça virait vite au carnage.
Putain, mais t'es trop bisounours. Faut leur botter le cul, sinon ils n'ouvriront jamais les yeux.
Peut-être. Mais celui qui sait mieux qu'autrui ce qui est bon pour lui prend vite les allures d'un tyran. Allez, on y va.
Putain, mais ça pue dehors.
Tu crois qu'on peut sortir ?
Y'a qu'un moyen de le savoir. On y va.
Eh oui, c'est vraiment la fin. La suite reste à inventer, comme notre histoire. Je voulais en profiter pour remercier encore une fois toutes celles et ceux qui ont contribué à cette série hors norme. L'effort a été intense et j'y réfléchirai deux fois avant de me relancer à nouveau dans une telle aventure. Mais c'était super palpitant. Donc merci aux invités, aux acteurs, merci à tous. Et un merci très spécial pour Karine et Gilles qui m'ont accompagné pendant toute cette saison. Il me tarde d'enregistrer la prochaine et d'ici là, prends soin de toi, de tes proches et joyeux Noël. Je te donne rendez-vous en 2020 si la Terre tourne toujours aussi rond. Ciao.